Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, en direct de la capitale américaine, Morgan Diriek avec Peggy Wabeno de notre station partenaire Top Congo. Lundi 24 septembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir,
au Cameroun, deux civils ont été abattus à Boya, en zone anglophone, théâtre d'un conflit avec des séparatistes armés.
Au Burkina Faso, trois gendarmes ont été tués et trois employés du secteur minier ont été enlevés.
Au Gabon, des intellectuels dénoncent le pays des recours devant la Cour constitutionnelle.
Ici aux États-Unis, pour le président Donald Trump, les accusations d'agression sexuelle visant son candidat à la Cour suprême sont totalement politiques. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Au Cameroun, deux civils ont été abattus aujourd'hui à Boya, capitale du Sud-Ouest, l'une des deux régions anglophones en proie à un conflit entre forces de l'ordre et séparatistes. Selon des témoins, les militaires ont tué deux personnes, un chauffeur de taxi et un boutiquier. Des tirs ont aussi été entendus ce matin à Moulico, le quartier sud-ouestien de Boya.
Au Burkina Faso, trois gendarmes ont été tués ce week-end dans le nord du pays. Trois employés du secteur minier ont également été enlevés. Bagassikoura.
Dimanche, deux expatriés de la mine Dinata dans l'extrême nord du pays, un Indien et un Sud-Africain, ainsi que leur chauffeur, ont été enlevés par des hommes armés alors qu'ils voulaient rallier Djibo, la grande ville de la région. Ce rapt a été probablement perpétré par des djihadistes près de la mine d'or Dinata. Les forces de sécurité ont tenté d'intervenir. Les échanges de tirs ont duré près de 2 heures, de 15h à 17h. Lors de cet accrochage, trois gendarmes ont été portés disparus et ce matin, trois corps ont été retrouvés à Tongo Mayel, localité située à une trentaine de kilomètres d'Inata, selon une source sécuritaire à Djibo. Les ravisseurs sont probablement des membres de groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Ils se sont dirigés vers la frontière malienne et l'ont sûrement déjà franchi, a indiqué une source sécuritaire. Il s'agit de la troisième affaire d'enlèvement d'expatriés au Burkina Faso.
Élections législatives et locales au Gabon, 33 candidatures ont été invalidées hier par la Cour constitutionnelle. Parmi ces candidatures, celle de l'opposante Chantal Miboto Ngondjou. Une seule liste des candidatures du parti au pouvoir a été invalidée. Au total, 17 candidatures ont été validées pour ces scrutins prévus dans 12 jours.
Et toujours concernant les élections au Gabon, une vingtaine d'intellectuels estiment moralement inacceptable que les recours devant la Cour constitutionnelle soient devenus payants depuis 3 mois. L'institution chargée de valider les résultats électoraux réclame 5 millions de francs CFA pour contester une élection présidentielle et 500 000 francs CFA pour une procédure concernant un député ou un sénateur. Le salaire mensuel moyen au Gabon est d'environ 300 000 francs CFA.
République démocratique du Congo, nouveau bilan de la tuerie de samedi à Beni dans l'est du pays. L'armée compte désormais 21 morts, dont 17 civils et 4 militaires. Ces violences sont attribuées aux rebelles EDF, un groupe d'origine ougandaise. Le parquet militaire a ouvert une enquête. Beni a vécu au rythme d'une journée ville morte à l'appel de la société civile, écoles et commerces fermés, rue déserte. Nous reviendrons sur la situation à Beni dans notre partie magazine.
Un diplomate américain en poste à Madagascar a été retrouvé mort dimanche à son domicile de la capitale, Antananarive. Il a été vraisemblablement tué. D'après la gendarmerie, un homme a été surpris alors qu'il tentait de s'échapper. Il a été arrêté et placé en garde à vue.
Retour sur les intempéries de samedi en Tunisie. Le gouvernement annonce un dernier bilan de 5 morts, un disparu et des centaines de sans-abri dans le nord-est du pays.
L'UNICEF tire la sonnette d'alarme en Libye. Environ 500 000 enfants sont en danger immédiat à Tripoli, théâtre d'affrontements entre milices rivales depuis près d'un mois. Selon l'UNICEF, outre des pénuries d'eau, de nourriture et d'électricité, les enfants libyens sont aussi menacés par une recrudescence de la rougeole avec plus de 500 cas connus. Depuis le 27 août, des combats ont fait au moins 115 morts et près de 400 blessés selon le gouvernement. Les heurts se sont intensifiés au cours des dernières 48 heures.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump défend Brett Kavanaugh, son candidat à la Cour suprême. Les accusations d'agression sexuelle visant le juge sont totalement politiques, affirme le chef de la Maison-Blanche, alors que Brett Kavanaugh est accusé par une autre femme. Le point avec Michel Joseph.
C'est un homme parfait, avec un passé irréprochable, a déclaré Trump à propos de Brett Kavanaugh, son candidat à la Cour suprême. Il a ajouté que tout cela sort soudainement et c'est totalement politique, trois décennies après les faits présumés. Hier, une ancienne camarade de l'université de Yale, Deborah Ramirez, 53 ans, a accusé le juge Kavanaugh de s'être exhibé devant elle lors d'une soirée bien arrosée. Brett Kavanaugh a aussitôt démenti cette nouvelle accusation. Il avait déjà nié les accusations d'une ancienne connaissance de lycée, Christine Blasey Ford, 51 ans, qui affirme avoir été agressée sexuellement par le juge Kavanaugh. La commission judiciaire du Sénat, chargée d'examiner les candidatures à la Cour suprême, doit auditionner jeudi le juge et Mme Blasey Ford. Par-delà l'enjeu des élections de mi-mandat, la confirmation du juge Kavanaugh va ancrer pour de longues années le conservatisme à la Cour suprême, chargée d'arbitrer les questions les plus épineuses, comme le port d'armes ou le mariage homosexuel.
Aux États-Unis toujours, le numéro 2 du ministère américain de la Justice, Rod Rosenstein, a été convoqué à la Maison-Blanche et devrait quitter ses fonctions trois jours après la publication d'informations selon lesquelles il aurait suggéré en 2017 la mise à l'écart de Donald Trump pour inaptitude à la fonction présidentielle, selon plusieurs médias américains.
L'Iran a rendu hommage aux victimes de l'attentat commis samedi dans la ville d'Arvaj lors des funérailles publiques. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans le centre d'Avaz pour les funérailles des 24 personnes tuées, d'après le dernier bilan officiel. Samedi, un commando a ouvert le feu sur un défilé militaire et la foule de spectateurs. Les autorités n'ont donné aucun détail sur l'identité des victimes. L'attentat a fait 60 blessés. Les quatre assaillants ont été abattus. Selon la télévision d'État, seules 12 des 24 victimes ont été enterrées à Avaz. Les autres, originaires d'autres régions, vont être inhumés dans leur province d'origine. Les auteurs de l'attaque ont péri, nos agents identifieront leurs restes et leur soutien, a déclaré Mahmoud Alavi, patron des renseignements. Nous allons prendre une terrible revanche sur nos ennemis, a ajouté Hossein Salami, commandant de l'armée. Il y aura une revendication du groupe État islamique. Téhéran a accusé la mouvance séparatiste arabe du Khuzestan d'avoir perpétré l'attaque avec le soutien des États-Unis, Israël ou encore des monarchies du Golfe.
73e Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État commencent à arriver ce lundi à New York. Ils doivent se succéder à la tribune à partir de demain, après le très attendu discours d'ouverture du président américain Donald Trump. Le point sur place avec Raïssa Girondin.
Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur le président américain Donald Trump. Il devra évoquer l'Iran à la tribune. Le gouvernement iranien a accusé l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux d'être à l'origine d'un attentat qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Le conflit israélo-palestinien, la décision de l'administration Trump sur Jérusalem, le retrait du financement de l'agence de l'ONU aux réfugiés palestiniens seront autant de questions que Trump pourrait aborder. Un autre thème favori du président américain, c'est que les autres pays membres des Nations Unies doivent apporter plus au budget. Il a déjà prévenu que les États-Unis ne veulent plus porter ce fardeau financier injuste. Parmi les grands absents notables figurent le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre indien Narendra Modi. Du côté africain, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais Macky Sall, le président ivoirien Alassane Ouattara ne seront pas du rendez-vous. Les missions de maintien de la paix sur le continent africain seront certainement abordées, tout comme la question migratoire. À l'ouverture de cette 73e session, l'Afrique est à l'honneur. Les pays membres ont rendu un hommage à Nelson Mandela.
Conflit au Yémen, la coalition sous commandement saoudien annonce son intention d'ouvrir trois corridors humanitaires entre le port de Hodeidah et la capitale Sanaa, une opération menée en coordination avec l'ONU. La situation humanitaire ne cesse d'empirer au Yémen avec des risques croissants de famine d'une grande ampleur. Ces corridors ouverts entre 6h et 18h locales visent à contribuer à la distribution de l'aide. La ville portuaire de Hodeidah sur la mer Rouge et la capitale yéménite Sanaa sont aux mains des rebelles houthis soutenus par l'Iran.
Migration vers l'Europe, l'Aquarius est en route vers Marseille et les ONG ayant affrété le navire humanitaire demandent aux autorités françaises d'autoriser, à titre exceptionnel, le débarquement de 58 migrants à son bord. Et c'est ce que rapporte l'organisation SOS Méditerranée. Par ailleurs, le gouvernement italien a adopté une série de mesures draconiennes pour limiter l'immigration clandestine. Il s'agit notamment pour le ministre de l'Intérieur de combattre les passeurs, réduire les coûts d'une immigration qualifiée exagérée, expulser plus rapidement les délinquants et les faux demandeurs d'asile, révoquer la citoyenneté aux terroristes et donner plus de pouvoir aux forces de l'ordre.
Amnesty International appelle la Chine à faire la lumière sur la répression massive dont seraient victimes jusqu'à 1 million de membres de minorités musulmanes dans la vaste région du Xinjiang dans le nord-ouest chinois. La région est l'objet d'une sévère reprise en main politique ces dernières années à la suite d'une série d'attentats meurtriers attribués à des islamistes ou à des indépendistes musulmans.
Et voilà, avant de clore ce bulletin, un rapide rappel des titres. Au Cameroun, 2 civils ont été abattus aujourd'hui à Boya, capitale du Sud-Ouest, l'une des 2 régions anglophones en proie à un conflit entre forces de l'ordre et séparatistes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Blanche Sanou.
Au Bénin, la taxe de 5% imposée sur les services de communication vient d'être annulée peu après la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables des réseaux de téléphonie mobile. Un communiqué rendu public annonce la vision du gouvernement à faire du secteur de l'économie numérique un vecteur de développement et de croissance de l'économie béninoise. Ainsi, à partir du lundi 24 septembre 2018 à 0h, les nouveaux tarifs annoncés par les opérateurs sont abrogés et les anciens restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le leader mondial des cosmétiques L'Oréal veut lancer un fonds de capital risque dédié aux entreprises technologiques et innovantes en Afrique. Grâce à cet investissement, l'entreprise française va désormais nouer des partenariats avec des start-up sur le continent afin de rendre ses produits plus accessibles dans les zones reculées. Au Maroc, le Conseil économique, social et environnemental a lancé un signal d'alerte face à la persistance des inégalités qui pèsent sur la cohésion sociale du royaume. Le peuple accepte de moins en moins la pauvreté, le chômage des jeunes, les inégalités sociales et territoriales, selon un rapport de l'organisme qui préconise également de renforcer la bonne gouvernance pour établir la confiance des citoyens.
On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Trophée du meilleur joueur FIFA de l'année.
La remise du trophée a lieu ce soir à Londres. Luka Modric est le favori, lui qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie et qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, également vainqueur de la C1, n'est pas présent ce soir à la cérémonie. Officiellement, car la Juventus prépare son match contre Bologne.
Suspension confirmée en France pour Kylian Mbappé.
Oui, la suspension du champion du monde pour 3 matchs de Ligue 1 pour son geste d'humeur face à Nîmes le 1er septembre dernier a été confirmé en appel par la Fédération française de football. Le joueur du PSG manquera donc encore un match de championnat, ce sera contre Reims pour la 7e journée de la Ligue 1.
On connaît l'affiche des demi-finales de Ligue africaine des champions.
Et ce sera sans le Wydad Casablanca, le tenant du titre éliminé par l'entente de Sétif, qui affrontera en demi-finale les Égyptiens d'Al Ahly du Caire, victorieux des Guinéens de Oroya 4-0. L'autre affiche des demi-finales va mettre aux prises les surprenants Angolais du Primeiro de Agosto, tombeur des Congolais du tout-puissant Mazembe, face à l'Espérance de Tunis, vainqueur de l'étoile du Sahel.
Affiche des demi-finales de la Coupe CAF.
Les Nigérians d'Enimba ont dominé les Rwandais de Rayon Sport 5-1. Ils affronteront le Raja Casablanca, tombeur des Congolais du Kara de Brazzaville. Quant aux Égyptiens d'Al-Masri, ils joueront contre l'AS Vita Club, le club de Kinshasa.
Les footballeurs espagnols ne veulent pas venir jouer aux États-Unis.
Oui, le syndicat des footballeurs espagnols a confirmé son refus du projet de match délocalisé aux États-Unis après avoir étudié les éléments fournis par la Ligue professionnelle. La fédération espagnole avait aussi exprimé la semaine dernière son opposition formelle à cette délocalisation à Miami du match Rejón-FC Barcelone lors de la 21e journée de la Liga. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est également montré très réservé sur cette initiative.
Mondial féminin de basket en Espagne et le Sénégal qui brille.
Aucun match ce lundi, mais demain les Lions de la Teranga tenteront de confirmer face à la Chine leur victoire historique face à la Lituanie 70-69. Même scénario pour le Nigeria, vainqueur dimanche de la Turquie et qui jouera contre l'Argentine.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Suspension des activités de lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Beni, au Nord Kivu, après l'attaque de présumés rebelles ADF. La société civile soutient la mesure annoncée par le ministère de la Santé. Samedi, des rebelles présumés ont mené une attaque qui a fait, selon le dernier bilan, 21 morts. Peggy Wabeno a joint Kizito Bin Angi, premier vice-président de la société civile de Beni.
Oui, c'est un danger pour la population de Beni, mais c'est une décision du gouvernement congolais à travers le ministre national de la Santé suite à l'insécurité grandissante caractérisée par les massacres à Beni. D'ailleurs, cette décision du ministre de la Santé au niveau national vient d'être appuyée et soutenue par la société civile de Beni qui s'est réunie ce lundi 24 septembre 2018 à son bureau pour analyser les contextes sécuritaires qui prévaut actuellement. C'est comme ça qu'en réunion, les organisations de la société civile viennent de décider qu'on puisse également suspendre les activités de riposte contre Ebola parce que la population disait, les habitants disent mieux vont mourir par Ebola que de mourir par le massacre à ville de Beni. Et les organisations exigent également la suspension des activités de toutes les organisations internationales nationale et même locale, ainsi que de la MONUSCO sur terrain insécurisé. Et ces organisations sont aussi exposées par cette insécurité causée par les présumés ADF. C'est pourquoi les organisations de la société civile demandent également la suspension de leurs activités sur terrain ici.
Vous ne craignez pas qu'il y ait de nouvelles contaminations?
En tout cas, la population, comme elle est déjà informée sur les mesures de protection, on ne craint pas qu'il y aurait d'autres contaminations. La population dit qu'elle va se prendre en charge en mettant ou encore en respectant les règles d'hygiène pour qu'on ne puisse pas assister à des contaminations. Maintenant, on demande à ce que les gouvernants puissent éradiquer d'abord définitivement les présumés ADF qui sont en train de venir massacrer, tuer et piller les biens de la population. C'est comme ça que la société civile, avec ses composantes, soutient la mesure du ministre de la Santé au niveau national.
Kizito Bin Angi, premier vice-président de la société civile de Beni.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou en votre compagnie et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive à votre avis. Depuis le 29 juin au Gabon, les recours auparavant gratuits sont devenus payants à la Cour constitutionnelle. Estimez-vous que les recours payants devant la Cour constitutionnelle chargée de valider les résultats électoraux soient une bonne ou une mauvaise chose? Quelle autre solution vous semble adéquate? Dans votre pays, faut-il payer pour faire un recours? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, laissez vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook ou appelez directement en direct dès 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site www.voafrique.com.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé depuis juin dernier de fixer un montant pour chaque recours électoral qu'elle est appelée à examiner. Aujourd'hui, à 2 jours d'élection générale, une vingtaine de membres de la société civile, composée de juristes, écrivains, économistes, politologues, enseignants ou leaders d'ONG, dénoncent le coût des recours électoraux. Quel impact cette décision peut-elle avoir sur la vie politique gabonaise? Nani Talani a joint à Libreville, Marco Mahona, et Sangui, fondateur de l'ONG environnementale Brain Forest.
La Cour a pris une décision qui consiste à dire que si, par exemple, un citoyen veut introduire un recours par rapport aux élections, parce que la Constitution dit clairement que n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle pour contester une élection ou bien une fraude électorale. Et c'est gratuit.
Il se trouve que la Cour constitutionnelle, on ne sait pas par quelle inspiration, vient de décider que tout recours qui concerne les élections, élections locales, élections législatives, élections présidentielles, devrait être accompagné par une somme d'argent. Par exemple, pour les élections locales, si vous avez envie d'introduire un recours, vous devez payer 100 000. Pour les élections législatives, il faut payer 500 000 francs.
Qu'est-ce que vous dénoncez dans cette décision de la Cour?
La décision que la Cour vient de prendre est une décision qui viole les droits des citoyens à pouvoir saisir les juridictions en cas de problème, en cas de recours. La Constitution confère à tous citoyens le droit d'intervenir, ou bien de solliciter, d'interroger les différentes juridictions qui sont dans notre pays. Et de manière gratuite, c'est un droit constitutionnel. Et aucun droit constitutionnel ne peut être monnayé. Vous imaginez, tout citoyen en possession des preuves d'une fraude ou bien d'une violation des dispositions liées aux élections se doit d'abord d'aller chercher un peu d'argent et d'interroger la Cour. Est-ce que c'est constitutionnel? La Cour qui est habilitée normalement à trancher de la constitutionnalité des actes posés au quotidien par les citoyens venait à monnayer cette requête introduite auprès d'elle. On est où? C'est une violation flagrante de la Constitution par une institution qui est habilitée à juger de la constitutionnalité des actes posés au quotidien par les citoyens. C'est ce qu'on dénonce parce que aujourd'hui, saisir la Cour constitutionnelle revient à dire qu'il n'y a que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des moyens, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, alors que la Constitution confère à tout citoyen, quel que soit son statut, le droit de saisir la haute juridiction. Mais c'est ahurissant.
Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur la vie politique gabonaise?
Mais ça va avoir un impact clair. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent non seulement frauder, mais peuvent aussi sortir indemnes de leurs actes de fraude. Parce que le citoyen lambda qui est sur le terrain, qui peut constater les irrégularités, ne peut même pas saisir la Cour constitutionnelle. À supposer que moi, je suis citoyen, je viens de constater les irrégularités au cours d'une élection, quelle que soit l'élection, je détiens toutes les preuves. Mais je n'ai aucun moyen financier d'interroger la Cour. Simplement dire que ce sont ceux qui ont l'argent qui ont le droit de saisir la Cour et ce sont ceux-là qui ont toujours l'argent qui peuvent orchestrer la fraude, sachant très bien que ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas dénoncer cette fraude. Alors que la Constitution confère à tout citoyen, quel que soit son statut, le droit de saisir la haute juridiction. Mais c'est ahurissant. Et la Cour est complice. Vous imaginez le scandale que ça peut constituer venant d'une Cour constitutionnelle. C'est la première fois que nous vivons ce type de situation dans un pays qui se veut démocratique.
Quelles actions comptez-vous mener contre cette décision?
Nous avons publié une tribune aujourd'hui et cette tribune va nous permettre d'envisager d'autres actions. Nous attendons la réaction de la Cour constitutionnelle. Si elle demeure à fond comme d'habitude, parce qu'elle est complice de la captation et de la confiscation du pouvoir, nous allons engager d'autres actions que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Nous attendons d'abord que la Cour réagisse par rapport à cette interpellation. Nous attendons qu'il y ait un peu de sagesse du côté de cette Cour qui est à tort ou à raison qualifiée de tour de pise.
Marco Naïsangui, fondateur de l'ONG environnementale Brain Forest.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, les populations du Poule restent sceptiques quant au processus de désarmement. Les ex-combattants ninja ne remettent généralement que des fusils de chasse. Un point de vue que la commission de ramassage des armes ne partage pas. Reportage sur place à Kinkala du correspondant de VOA Afrique, Arsène Séverin.
De nombreux habitants du Poule estiment que les armes que remettent les ex-combattants ninja ne sont vraiment pas celles dont la détonation les a terrorisés pendant de longs mois du conflit armé. Selon ces populations, les armes remises ne sont en effet pour la plupart que des fusils de chasse. Nestor Antiété, un habitant de Kinkala.
Ça ne nous rassure pas tellement parce que peut-être pas, il n'y a pas de banditisme. Mais est-ce que réellement les armes qui ont été remises sont celles-là? Est-ce que c'est vraiment le nombre? Parce qu'il faut que dans les confins des villages, il faut que les gens reprennent. Mais avec des hommes en armes qui pensent je ne sais pas à quoi, ça pose des problèmes.
Pour rassurer la population et lever tous ses doutes, Séraphin Ondélé, président de la commission de paix dans le Poule, a été obligé d'ouvrir exclusivement à VO Afrique son dépôt de stockage d'armes collectées.
Ce qui est dans les cartons, dans les sacs là, ce sont des armes. Très bien. Allons, je vais te montrer le deuxième magasin. Là où ça a fait des fusils de chasse, on les a mis de côté. Qu'est-ce que les gens en parlent? Oui. Regarde, c'est ça qui détruit les portes avec leur détonateur. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Et des roquettes et des grenades. comme on a dit au départ, les gens, les ex-combattants étaient hésitants. Le message est passé à plus de deux reprises. Le patient Tomil l'a lancé. Et donc voilà, là, on est au-delà de toutes nos prévisions. Vous avez vu la quantité d'armes, la nature des armes. Ça dépasse largement toutes nos prévisions. Ils arrivent individuellement, de jour comme de nuit. Ils remettent leurs armes, moyennant un kit que vous avez pu voir. Et donc, ça se passe très bien. Et comme j'ai dit, vraiment, c'est un afflux incroyable.
Venu librement et volontairement remettre ses deux kalachnikovs, le colonel Korombo, un chef d'équipe ninja, déclare que pour eux, la guerre est définitivement terminée et les armes sont effectivement rendues.
C'est nous, vraiment, c'est fini. Peut-être eux, mais sinon, c'est nous, il n'y a pas la guerre. Parce que c'est notre chef, c'est important de la paix. Nous tous, on doit se donner cette paix-là. Quand je donne ça, ils m'ont donné un petit danger pour que je vive avec ça. Je suis militaire d'abord, la classe 96, le 96. Malheureusement, comme ça, je retourne aux brousses parce que c'est le pays qui m'a organisé. Maintenant, là, on a tourné le dos pour la paix.
Vouzaz, un autre ex-combattant, après avoir déposé son arme au guichet de Kinkala, appelle le gouvernement à organiser leur réinsertion socio-professionnelle.
Pour nous, les ninjas et le pasteur Ntoumi, la guerre est finie. Si un jour les hostilités reprenaient, ce ne serait pas de notre faute, car nous avons tout remis. Maintenant, il faut vite passer à la réinsertion. Cela nous permettra de commencer d'autres activités socio-économiques.
Avec une arme échangée contre 100 000, voire 150 000 francs CFA, les ninjas gagnent des petites cagnottes qui leur permettent d'acheter des motos. Les autorités s'apprêtent à lancer l'identification des ex-combattants en vue de leur réintégration. De retour de Kinkala dans le pool, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Voilà, c'était donc le reportage d'Arsène Séverin. Au Sénégal, sécurité routière avec la numérisation des permis de conduire. Dans la première phase de ce projet, chaque usager devra débourser 10 000 francs CFA pour obtenir un permis biométrique. Cette initiative recueille déjà le soutien des usagers, même s'ils reconnaissent qu'il sera difficile de passer le cap. Reportage à Dakar du correspondant de VOA Afrique, Sédina Bagueille.
Un projet innovant qui va transformer l'administration des transports routiers avec la gestion de l'identité des détenteurs de permis de conduire, l'enregistrement rigoureux des véhicules en circulation et l'éradication des faux titres de transport. Pour les usagers, la numérisation est devenue une nécessité. Elhaj Baledjei, un conducteur, estime que cela participe à l'amélioration de la sécurité routière.
Je trouve que le fait de mettre en place une base de données, un système informatique qui va permettre à l'autorité, qui va permettre à l'agent, mais de savoir un certain nombre d'informations sur la personne, sur chauffeurs. Ça déjà c'est une bonne chose parce qu'on est au Sénégal, il y a tout. Il y a des gens qui sont serrés, il y a d'autres qui ne sont pas serrés. Il y a des gens recherchés, etc. Donc c'est bien pour avoir plus de sécurité quand même. Si on arrive à mettre en place tous les matériels qu'il faut et avoir des agents assermentés parce que quand même derrière il y a un contrôle et une sanction.
L'innovation majeure de ce projet est la présence du groupe sanguin sur le permis biométrique. Un autre conducteur, Yakusei, pense que cette nouveauté sur le permis doit être étendue à d'autres services.
Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où cela va éradiquer la fraude sur les permis. Mettre le groupe sanguin aussi est une bonne chose. Mais pour moi, ils ne doivent pas le limiter au permis parce que le chauffeur n'est pas le seul à bord. En cas d'accident, les passagers auront aussi besoin de sang. Donc, il faudra penser à mettre le groupe sanguin des gens sur les cartes d'identité, par exemple, pour permettre une meilleure prise en charge sanitaire en cas d'accident.
La numérisation du permis de conduire rentre dans le cadre global de la modernisation de l'administration des transports initiée par la direction des transports routiers. Modoukan Diaou, chef de division des politiques et de la planification, éclaire sur la motivation du projet.
Le système de délivrance des titres a été informatisé, mais suite à un audit, on a vu qu'effectivement le système sur lequel nous travaillons, la plateforme sur laquelle nous travaillons est très limitée. Donc suite à cela, effectivement, on a mis à niveau notre système informatique pour travailler vers un guichet unique pour dématérialiser les procédures. Maintenant, pour ce qui est des titres, des supports, ils étaient en support papier, falsifiables, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de documents faux en circulation. Il fallait sécuriser et numériser les titres.
Au-delà de la sécurisation et de la numérisation des permis, d'autres leviers vont être activés pour renforcer la sécurité routière. Dans un pays qui compte une population majoritairement non alphabétisée, les autorités comptent réformer l'examen du code de la route et l'adapter aux réalités locales. Bientôt, les candidats auront à leur disposition un système audiovisuel traduit en 6 langues nationales pour une meilleure maîtrise du code de la route. Pour rappel, au Sénégal, les accidents de la route ont fait 635 morts en 2017. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma, à la console Joe Gill, à la présentation Morgan Diriek et Félix Wabeno. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.